L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor. C'est apostrophe H à la fin, c'est le nouveau nom de Radio Évasion. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h. Et aujourd'hui, il y a encore du droit public dans l'EM. C'est un hasard, ce n'est pas un complot. Hasard des rencontres, des disponibilités des invités. Notre invité du jour a déjà fait entendre sa voix sur nos ondes. C'était lors d'un colloque sur les pollutions plastiques en novembre. C'était à l'Améthyste à Crozon, colloque organisé par la Maison des Minéraux. Odeline Billan y était avec sa thèse en droit public sous le bras. Elle a consacré ce travail aux pollutions marines plastiques, donc venues des continents. Ces pollutions venues de la Terre représentent environ 80% de la pollution en mer. Et comme elle est juriste, Odeline Billan s'est intéressée aux réglementations qui sont censées réduire ces pollutions. Quelle est leur efficacité? C'est un peu la question qu'on va se poser. Et on va voir ça. Bonjour Odeline.
Bonjour.
Alors, quel pays déjà avez-vous étudié dans votre thèse? Parce que c'est important, vous ne pouviez pas étudier le monde entier.
Non, en effet, c'est important de se rendre compte que le droit est riche et complexe et que du coup, on ne peut pas tout analyser en même temps. Donc moi, je me suis concentrée sur 7 pays européens, africains et américains. Donc la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Sénégal, le Cap-Vert, le Brésil et les États-Unis.
Et comment s'est fait ce choix ?
Alors ce choix, il s'est basé sur des collaborations existantes entre des équipes de recherche de différents pays et également par intérêt scientifique, on va dire, de se pencher par exemple sur les pays européens, donc France, Royaume-Uni, Irlande. À l'époque, le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne. Et de voir comment, au sein même de l'Union européenne, on pouvait adopter ou non des réglementations qui pouvaient diverger.
Et c'était important que ça soit sur différents continents, justement pour évaluer l'efficacité C'est ça ?
Oui, je pense que ce qui était important aussi pour nous, c'était de questionner en fait le rôle, on va dire, des pays riches et des pays en développement dans la protection de l'environnement. On entend souvent que ce sont les pays les plus riches qui protègent leur environnement parce que grâce à leur richesse, ils ont le moyen en fait de franchir ce pas supplémentaire. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on observe sur la réglementation des sacs plastiques. Et donc avoir des pays de continents et de niveaux de richesse différents permettait aussi d'analyser ça.
Donc là, c'était spécifiquement les sacs plastiques uniquement. Enfin, il y avait pas, je sais pas, les autres emballages ou.
Alors non, même. Alors j'aurais bien aimé, bien sûr.
Oui, au début, analyser. C'était même pas seulement les plastiques. C'était d'autres pollutions qui étaient prévues, c'est ça?
Oui, non, je devais travailler sur les plastiques, l'assainissement et les pesticides. Alors bon, là,
ça fait beaucoup.
Sur sept pays, une thèse, ça ne dure de temps limité aussi, et il faut se dire que c'est pas un travail qui est terminé. Il peut se poursuivre par la suite. Et dans le royaume des plastiques, disons, les sacs en plastique, ils ont un intérêt particulier. Parce que c'est un objet qu'on retrouve partout dans le monde. Et donc, on peut comparer des réglementations parce qu'elles s'attachent au même objet. Et aussi parce que c'est le premier objet à usage unique qui a été réglementé dans différents pays dans le monde. Les premières réglementations sur les sacs en plastique, elles datent du début des années 2000. Et contrairement à tous les autres plastiques, les emballages, les bouteilles, les mégots, qui sont encore très peu réglementés.
Ah oui, et est-ce que c'est réglementé partout dans le monde maintenant? Non, peut-être pas quand même, il doit y avoir des trous dans la raquette.
Non, peut-être pas quand même. Alors, je n'ai pas une vision tout à fait exhaustive de toutes les réglementations du monde, mais il y a des rapports qui ont été publiés, notamment par l'ONU, sur ce sujet-là, qui montrent qu'environ, je ne vais pas trop m'avancer, mais entre 50% et 2/3 des pays dans le monde réglementent les sacs en plastique.
Ah oui, il y a encore de la marge de progression.
Il y a encore du boulot.
Et même ceux, on va le voir, hein, ceux qui réglementent, bon, c'est pas encore parfait. Donc là, c'était vraiment, enfin, c'est comment on appelle ça, du droit comparé, enfin, ce travail-là, c'est qu'est-ce que c'est exactement l'objet?
Oui, on peut appeler ça du droit comparé.
Ok, mais public, hein, on est bien d'accord que on reste sur ce que mettent en place les États et pas, par exemple, les collectivités locales pour la France. Ou est-ce que ça a été examiné quand même dans votre thèse ou pas?
Alors le droit public peut s'intéresser à ce que mettent en place les communes, mais dans le cadre de ma thèse, on s'est intéressé au niveau national et au niveau, par exemple, des États fédérés dans les pays fédéraux. Donc par exemple le Brésil, les États-Unis, le Royaume-Uni. Donc c'est un peu particulier, mais c'est un fonctionnement en fait où il y a des règles qui sont adoptées pour tout le pays, mais également par des régions semi-autonomes.
Alors, on va faire, je ne sais pas comment on va faire, on va peut-être les passer en revue, en fait, ces pays, et voir un peu, est-ce qu'on commence par l'Europe ou est-ce qu'on commence par le plus lointain? Qu'est-ce que vous préférez?
Je dirais qu'on va peut-être les brosser de manière thématique.
D'accord, allons-y.
Alors, ce qu'on observe d'abord quand on rentre en fait dans ces textes-là, c'est qu'il y a deux façons de réglementer les sacs en plastique. Soit on les interdit, soit on les taxe. Et donc, dans le petit échantillon que j'ai observé... Alors, petite précision. Pour le Brésil et pour les États-Unis, je me suis intéressée qu'à deux États fédérés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, qu'au Texas et à la Floride pour les États-Unis.
Ah oui, parce que c'est trop grand, sinon.
Il y a 50 réglementations aux États-Unis. Enfin,
ah
50,
oui.
Non, parce que tous les États n'ont pas adopté une règle. Mais en fait, il y a potentiellement 50 États analysés.
Ah oui, donc ça fait une différence. Voilà. Quoi.
Ouais. Et pour le Brésil, pareil. Et il se trouve, donc l'État du Pernambouc et l'État de Sao Paulo. Et il se trouve que pour ces quatre, on va dire, États, mais avec un petit E, au moment où j'ai étudié ces règles, il n'y avait pas de réglementation en cours adoptée. Par contre, il y a eu des réglementations qui ont été adoptées pour empêcher les communes d'adopter des règles sur le sac en plastique. Voilà,
ah oui.
petite parenthèse.
Ah oui, carrément.
Ouais. Mais ouais. Comme en France, on empêche les communes d'adopter des réglementations sur les pesticides. En fait, ça, c'est un peu un des grands classiques du droit de l'environnement, d'empêcher les autres de faire. C'est la distribution des compétences.
Ah oui, d'accord. Okay. Oui, bon, c'est pas non plus si choquant que ça.
C'est un classique.
Principe de subsidiarité, à la limite, on va dire ça.
On peut dire ça. Et donc, sur mes 7 pays, finalement, j'en ai plus que 5 là.
Ah oui.
À cette étape-là, qui est-ce qu'il y a un texte actuellement en vigueur ? Et donc, sur mes 5 pays, qui me restent, donc il y a des pays qui taxent et des pays qui interdisent. Les pays qui taxent sont les pays plutôt issus du droit anglo-saxon, du common law, donc le Royaume-Uni avec, en ce qui me concernait, l'Angleterre et l'Écosse, dans les petits États que j'ai analysés, et l'Irlande. Donc, il nous reste le Sénégal, le Cap-Vert et la France, qui ont plutôt une tendance à interdire, mais ce qui est intéressant au Sénégal et au Cap-Vert, c'est que ce sont deux États qui sont passés par la taxation, à un moment donné, et qui ont décidé de revenir en arrière.
Ah oui, et pourquoi ça ? Enfin, quels étaient leurs arguments ?
Alors, la motivation pour le Cap-Vert, c'était de commencer par taxer les sacs en plastique pour les interdire ensuite. Donc c'est quelque chose de progressif. D'abord, on taxe pour que les personnes se rendent compte que c'est un produit qui a un coût et qui
donc
va peut-être...
Donc on taxe qui exactement ? Les consommateurs, en fait.
Oui, les consommateurs,
oui.
Pardon.
D'accord, ok.
À l'achat du sac en plastique.
D'accord, ok.
Et donc ça, c'était dans l'idée, du coup, que ça, d'une progression, en fait, de l'application du droit, sans pour que ce ne soit pas du jour au lendemain, paf, il n'y a plus de plastique.
Ok.
Et au Sénégal, autre contexte, donc il y avait d'abord une loi en 2015 qui taxait les sacs en plastique d'une certaine épaisseur. Mmh. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette loi n'était pas applicable car elle n'était pas contrôlable. C'est-à-dire qu'ils ne disposaient pas des outils nécessaires pour mesurer l'épaisseur des sacs pour pouvoir contrôler lesquels étaient ou non en infraction.
Donc en effet.
Donc ça ne marchait pas. Et donc, nouvelle loi en 2020 qui, cette fois, interdit les sacs en plastique, purement et simplement. Comme ça, il n'y a pas besoin de contrôler leur épaisseur vu qu'ils sont tous interdits.
La date de la thèse, ça va de quand à quand, en fait, en gros, justement.
Ouais, c'est important aussi, hein, parce que le droit évolue vite. Alors, moi, j'ai travaillé de 2019 à 2022. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui s'arrête en novembre 2022.
Oui, mais
parce que j'ai arrêté de travailler dessus.
Ouais, c'est quand même assez récent.
Oui,
c'est récent. Et puis, donc, est-ce que c'était suffisamment diversifié, les types de réglementations, enfin les types de stratégies des États avec ces sept pays ?
Oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Donc, on a vu qu'il y avait des pays qui taxaient, des pays qui interdisaient. Donc, c'est quand même deux démarches assez différentes au problème de la pollution plastique. Et ensuite, sur les 7 pays, on va dire les 9 entités, étant donné que pour le Royaume-Uni, j'ai l'Écosse et l'Angleterre, il n'y a pas... Deux entités qui réglementent les sacs en plastique de la même façon, qui réglementent les mêmes sacs. C'est-à-dire qu'on va avoir des sacs en plastique, donc, par exemple, pour l'Écosse, tous les sacs en plastique sont taxés, sauf les sacs en plastique qui servent à transporter des haches, des couteaux, de la glace, du poulet cru, de la viande crue, du poisson cru, des produits en vrac, etc. Donc ça, c'est les produits... Des sacs en plastique destinés à quelque chose, mais on a aussi des sacs en plastique en fonction de là où on les trouve. Donc tous les sacs en plastique sont taxés, sauf les sacs en plastique qu'on trouve dans les ferries, à bord des zones de duty-free, dans les bus, etc. Donc déjà, on voit que là, il y a beaucoup d'exceptions.
Ah oui. Bah oui, c'est le droit, quoi. C'est tout le temps comme ça, en fait. Hein. C'est toujours négocié, n'est-ce pas ?
C'est toujours négocié. Et donc ça, c'est déjà la première information importante, c'est que parmi les sacs en plastique réglementés, il n'y en a pas deux qui sont réglementés de la même façon. Alors même que quand on croise un sac plastique dans la vie courante, on se dit c'est un sac plastique. On ne dit pas c'est un sac plastique destiné à transporter du poulet cru.
Ou des haches.
Ou des haches. Alors en plus, on peut
ça, c'est vraiment amusant, oui. Ça doit être un vieux truc traditionnel écossais, sans doute.
Il y a quelque chose que j'aimerais bien explorer si j'en avais l'opportunité là-dessus. Et après, donc ça, c'est le premier intérêt, c'est ça, c'est de voir en fait la diversité des sacs qui vont être réglementés ou non en fonction de quel pays, dans quelles circonstances.
Et on parle des usages, on ne parle même pas de la composition de ces sacs ou de de l'épaisseur, enfin je ne sais pas, c'est ça, non ?
On ne parle même pas encore à ce stade-là de leurs caractéristiques physiques, oui, l'épaisseur, ouais, la taille ou leur composition. Et alors là, autre chose. Là encore, on va observer qu'il n'y a pas deux sacs plastiques qui sont réglementés de la même façon en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques. Donc, parce qu'on a des sacs recyclables, compostables, biosourcés, oxodégradables, c'est des sacs qui sont additivés pour pouvoir se dégrader en tout petit bout de plastique.
Ouais, bah c'est super ça, enfin, franchement, entre nous, d'un point de vue biologique.
Ceux-là, ils sont affreux.
Bah oui.
Ils sont interdits en France depuis 2015, mais de leur fabrication à leur utilisation, en passant par leur commercialisation. Mais il se trouve que j'en ai croisé sur ma route, même dans, pas très loin d'ici. Pas très loin
En France.
En France, dans les années 2020, oui. Donc 5 ans après leur interdiction stricte.
Ah oui. Donc rappelons que ce n'est pas parce que le problème disparaît à nos yeux que les plastiques disparaissent. Ils sont là, hein, et on les mange d'ailleurs.
Et on les mange. Et en fait, ce qui était particulièrement intéressant, c'est un petit aparté, mais moi, ça m'a vraiment intéressé, c'est de voir que ce sac plastique-là, qui était interdit depuis 2015, qui est très nocif parce qu'il se dégrade en tout petit bout de plastique. Là, sur la durée de ma thèse, à un moment, je l'avais gardé parce qu'il était super, et je l'ai mis dans une boîte, et j'ai vraiment vu en fait sa dégradation sous mes yeux. Mais ce sac plastique-là, il était présenté comme un sac plastique écologique. Il y avait marqué dessus, grâce à ce sac, vous participez à la protection de l'environnement. Il y avait un joli arbre tout vert dessus, et il m'avait été donné par un commerçant qui, a priori, est plutôt une sensibilité pour l'environnement. Et donc, en fait, c'est que même quand on pense bien faire, on peut quand même être trompé par le produit qu'on a entre les mains, parce qu'on ne voilà, on peut pas tous être experts en sac plastique.
Mais non. Et donc, les États non plus. Enfin, on se rend compte que finalement, les États non plus, c'est ça, en fait, un peu le problème.
On se rend compte que les États non plus, et qu'il y a aussi plein de façons de contourner les règles. Alors, même si la règle, elle est stricte, il y a encore des façons de le contourner. Et ça, c'est par exemple, je l'ai observé sur les couverts en plastique.
Ah mais oui,
qui sont interdits et s'ils ne sont pas réutilisables. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la définition de la réutilisabilité des couverts en plastique, c'était de pouvoir passer 50 fois en machine.
Ah, c'était ça le critère.
Et c'était pas de pouvoir être planté dans une saucisse 50 fois.
En France,
ça c'est en France. Mm-hmm. Et du coup, petite digression, mais c'est vraiment fascinant, je trouve, comment le droit peut être contourné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les industriels ont produit ces mêmes couverts, marqués lavable 50 fois en machine, sur le sac, et on les retrouve encore.
Alors qu'ils sont exactement pareils qu'avant.
Alors qu'ils sont exactement les mêmes.
Et que les gens continuent à les jeter, ils ne les mettent pas en machine. En fait.
Et ils se cassent dès qu'on les plante dans une saucisse. Donc en fait, faut voir que la règle, elle peut... Et ça, c'était tout l'intérêt en fait, de ce travail-là, c'est de voir quel est le contenu de la règle et de voir si elle a du sens, en fait. Et parce que si elle n'a pas de sens tel qu'elle est rédigée et si elle est facilement contournable ou si elle ne s'adresse pas au problème de la bonne façon, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas d'impact, donc pas d'efficacité. Donc là, on est vraiment en fait très 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 en amont en fait de l'impact en fait sur les écosystèmes. C'est vraiment de voir en fait la règle telle qu'elle existe. Est-ce qu'elle a un intérêt? Est-ce qu'elle peut être protectrice?
Est-ce que dans tous les États, les 7 États explorés, il y avait des règles qui avaient une sorte de quand même un sens? Non mais on s'inquiète là.
Non, c'est oui, bien sûr que c'est un sens. En fait, il faut aussi voir que le droit c'est quelque chose d'évolutif qui se construit, qui se déconstruit parfois. Et en fait ce que j'ai observé aussi c'est les évolutions de ces règles à travers le temps. Et donc par exemple en 2015 en France on n'avait pas de sanctions rattachées au fait de posséder un sac illégal disons, ou de le produire. En 2020 c'est chose faite, donc
il y a eu des progrès.
On voit de plus en plus l'émergence des sacs compostables en alternative aux sacs en plastique disons non compostable. Donc ça, c'est un progrès aussi dans le sens où ces sacs-là, dans l'environnement, se dégraderaient. Mais il faut néanmoins faire attention à leurs conditions de dégradabilité.
Oui, parce que quand on dit compostable, en fait, on ne peut pas le mettre dans son compost de jardin. Enfin, ça ne va pas fonctionner. Quoi.
Ça dépend. En fait, il y a des sacs compostables. Il y a un petit encart en fait, vert en bas du sac marqué « home » comme maison. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi en anglais, mais « home compost ». Et donc, dans ce cas, un compost bien géré domestique...
Bien géré,
peut permettre de le dégrader. Mais si c'est seulement compostable sans le petit logo « home compost », c'est-à-dire que c'est compostable dans des conditions industrielles,
avec des très hautes températures en fait, c'est
très
ça
hautes températures, des conditions d'oxygène très, enfin 50 degrés, pas d'oxygène, et donc en fait des conditions qu'on retrouve pas ni dans nos océans ni sur quasiment sur Terre en fait.
Oui, pardon.
Non. Et donc je voulais dire, donc en fait, donc le droit se construit et toute règle est encourageante parce qu'elle montre quand même qu'il y a en fait un intérêt pour la problématique. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand la règle, elle apparaît comme en place, mais que derrière, elle cache en fait des vides de production, de protection.
Ouais. Un et alibi un peu quoi.
Oui, regardez, on a un texte.
Ouais.
Mais ce texte-là, il peut ne pas être appliqué, ne pas être contrôlable ou ne pas être applicable.
Et c'était le cas la plupart du temps, dans la plupart des États, quoi.
En fait, alors après, c'est facile d'être critique, hein. C'est plus difficile. C'est vraiment, il faut se rendre compte que le monde est complexe.
Ah oui, ça on le sait, ouais.
On le sait, mais je trouve qu'on l'oublie. Et,
Bah si, quand on a la liste des sacs plastiques et des usages, on voit, ouais.
Non, mais dès qu'on s'intéresse à un sujet, on creuse, on voit que c'est de plus en plus compliqué, qu'il y a des ramifications, et qu'en fait, les alternatives aux sacs en plastique aujourd'hui, elles ne sont pas si évidentes que ça.
Et donc, ah non, bien sûr. Oui.
Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément des défauts. C'est important d'en parler, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter, quoi.
Et les deux pays, enfin les deux États en l'occurrence, qui n'avaient pas encore de législation sur les sacs plastiques au début de la thèse, en tout cas, est-ce qu'ils en ont lancé depuis
Vous parlez du Brésil et des États-Unis.
Oui, tout à fait.
Alors, je peux pas me prononcer pour l'intégralité de ces deux États-là, qui sont en plus des États donc fédéraux, donc avec plein d'entités. Il se trouve que moi, je me suis intéressée aux États-Unis, au Texas et à la Floride. À un moment, je voulais également travailler sur les pesticides, et donc ça avait l'intérêt pour moi de travailler sur des États agricoles. Il se trouve que c'est aussi deux États très conservateurs. Et du coup, ce n'est pas du tout emblématique de tous les États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui sont aussi très progressistes sur la question des pollutions. Je pense à la Californie, je pense aux États de la côte Est. Mais il n'y a pas du tout d'uniformité au niveau du pays.
Est-ce que c'est ceux qui sont au bord de la mer qui s'en préoccupent le plus ou pas? Ça n'a pas de rapport.
Je n'aurais pas répondu de manière tranchée. Parce que la pollution des plastiques, on les voit aussi beaucoup à terre. Je pense à certains pays d'Afrique qui ont surnommé, Afrique du Sud en l'occurrence, qui ont surnommé les sacs en plastique les fleurs nationales. Et les fleurs, elles poussent à terre parce que ils étaient tellement partout, tellement présents dans tous les paysages terrestres que c'était devenu. Enfin, c'est un peu une manière ironique d'en parler, mais.
Bien sûr.
Après, c'est aussi un état côtier. Donc, je ne sais pas en fait s'il y a un lien direct. Le Rwanda, par exemple, qui n'est pas un État côtier, qui est un État d'Afrique de l'Est, un peu au centre, lui est très actif sur ce sujet-là, les sacs en plastique.
Et est-ce que ce n'est pas finalement moins compliqué dans des pays, on va dire, moins développés, parce qu'il n'y aura pas cette variété, par exemple, de sacs en plastique, cette technicité déployée, puis finalement, ça sera peut-être plus simple de légiférer, non
Je sais pas. En fait, il y a aussi la question de la production. Est-ce que la production elle est nationale ou est-ce qu'elle est importée et encore une fois, vraiment la grosse question des alternatives. Parce que dans les pays, disons, moins développés, on a aussi tendance à acheter en beaucoup plus petite quantité. Et donc, dans des produits beaucoup plus emballés. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter un gros bidon de lessive en une fois. Et donc, le sac, là, il devient important. Parce que pour transporter des petites choses, on a besoin de petits sacs. Donc, je saurais pas dire. Après, si les États africains... Donc, aujourd'hui, il y a à peu près deux tiers des pays africains qui ont réglementé les sacs en plastique, qui est plus, en fait, quand même la moyenne mondiale. Et une des questions qui se pose, c'est pourquoi, en fait, cet élan sur le continent africain de ces réglementations.
Pourquoi? Parce qu'ils en voient les effets concrets, non?
Parce que je pense qu'ils en voient les effets concrets. Parce qu'en fait... Un sac en plastique dans la nature, c'est aussi un endroit où l'eau s'accumule, où les larves de moustiques se développent. C'est aussi un objet qui peut boucher des drains, donc provoquer des inondations.
Et moustiques, qui dit moustique dit notamment malaria.
Notamment malaria. Ouais.
Maladie, quoi.
Ouais. Maladie. Mmh. Et donc, on en voit beaucoup plus des effets, et d'autant plus s'il n'y a pas de modes de ramassage des déchets, qui sont d'infrastructures qui sont mises en place. Et donc, rapidement, en fait, nos déchets, en France, en Bretagne, on les oublie.
Ils partent.
On va à la déchetterie, ils disparaissent. On le met dans notre sac poubelle, ils disparaissent. De notre vue, en tout cas. Là-bas, non. Et donc, je pense que c'est cette visibilité-là due au manque d'infrastructures qui a fait émerger le problème.
Et je pensais au Cap-Vert. Est-ce que ce n'est pas plus facile quand c'est un petit pays? Enfin, pareil, une question naïve, mais...
Peut-être que c'est plus facile quand c'est un petit pays. À condition, encore une fois, je pense, d'avoir une volonté politique, d'avoir une volonté d'appliquer cette règle et d'avoir une population qui adhère en fait au message. Et je dirais que c'est plutôt là les déterminants d'une réglementation appliquée.
Ouais, voilà, c'est intéressant de savoir quelles étaient justement les différences culturelles que vous avez pu observer dans votre thèse. Enfin, si ça, c'était un chapitre peut-être.
Malheureusement, non. On parle d'une thèse entre 2019 et 2022, donc avec le Covid qui est passé par là, donc j'ai vraiment pas pu me rendre en fait dans ces différents pays. J'aurais pas pu me rendre dans les 7, mais je devais passer notamment du temps au Sénégal, donc frontières fermées, impossibilité. Donc j'ai pas pu en fait pousser une analyse là-dessus.
Donc on ne sait pas en fait s'il y a des pays qui sont culturellement prêts à renoncer aux sacs en plastique ou à.
Je pense que ça se construit. Ce qui était intéressant dans la loi capverdienne. C'était de voir que les amendes qui étaient prévues en cas de non-respect de l'interdiction des sacs étaient dédiées au financement d'actions de sensibilisation. Mmh. Donc c'était une façon en fait de flécher de l'argent de non-respect de la règle en fait pour sensibiliser. Et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part ailleurs.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, là, il n'est pas tellement question... Enfin, il est question de réglementation, mais finalement, pas tellement de politique publique, de prévention, c'est ça
Le Cap-Vert, c'est le seul pays, en fait, à l'intégrer dans sa loi sur les sacs en plastique. Après, ce qui est important de voir, c'est que le droit s'appuie aussi sur des textes antérieurs ou des textes annexes, etc. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les autres pays.
Ouais.
Ça, je n'ai pas pu l'explorer, mais par contre, là, c'est clairement explicite.
Intéressant. Et on aurait pu croire que la France, enfin les pays européens s'y mettent plus, quoi. Mais finalement, non, c'est pas... C'est pas, au bon vouloir, quoi.
Pas plus. En fait, pas plus qu'ailleurs. Et ça, c'était vraiment je trouvais quelque chose d'intéressant, c'est de voir que les lois les plus complètes ou les plus applicables ne sont pas forcément des lois européennes.
Et vous êtes juriste. Concrètement, comment vous faisiez pour mesurer l'efficacité ou la non-efficacité des... Alors là, vous avez travaillé avec des biologistes, avec des écologues marins, des océanographes, pour voir si vraiment il y avait toujours ces plastiques à l'embouchure des fleuves ou je ne sais où, non ?
C'était un objectif initial. Alors, encore une fois, malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce travail-là, parce que c'était trop grand.
Oui, bien sûr, c'est ça, on se rend compte.
Et donc, pour travailler sur l'efficacité, donc il faut d'abord travailler sur le contenu du droit pour voir ce qu'il prévoit. Ensuite, il faut travailler sur son application, parce qu'il peut y avoir un écart entre ce qui est prévu et ce qui est vraiment appliqué.
Bien sûr.
Il y en a souvent à ce niveau-là. Et ensuite, de voir si cette application-là a permis de diminuer les sacs. Et donc là, il faut prouver un lien de cause à effet qui est compliqué à faire. Parce qu'en fait, dans le monde réel, on ne peut pas avoir des conditions d'expérimentation comme en laboratoire où on a un test... Et un contrôle et puis l'expérimentation.
Ouais.
Et donc, il faut trouver en fait, des façons de mesurer cet écart et d'attribuer la causalité. Parce que
sinon, ça peut être une corrélation à hasard. Voilà, il y a une baisse des sacs plastiques, mais ce n'est pas dû à la réglementation. Quoi. Ouais.
Oui, ou alors il y a une augmentation, mais que ce n'est pas dû non plus à la réglementation.
Aussi.
Par exemple, on a vu pendant la pandémie de Covid vraiment une résurgence du plastique, avec même certains pays, là je pense au Royaume-Uni, qui ont... fait une pause dans leur taxation pendant le Covid parce que c'était compliqué pour les gens d'aller dans les magasins et du coup les sacs en plastique permettaient de faire ce lien plus facilement. Et donc en fait il y a plein d'événements de la vie politique ou sociale des États qui peuvent venir influencer telle ou telle règle. Et donc en fait passer du contenu de la règle à son efficacité demande de franchir ces différentes étapes-là. Et c'est primordial.
Et donc,
mais je ne l'ai pas fait.
Ah ouais, d'accord. Mais il y a d'autres chercheurs qui le font. Quoi.
Alors, il y a des chercheurs qui travaillent en effet sur le plastique dans l'environnement. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont en mesure non plus de faire ce lien avec l'existence du droit. En fait, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé, ce lien-là, en fait, qui du coup est un travail interdisciplinaire, très large. Qui pourrait voir le jour, mais qui n'a pas encore vu le jour.
Vous avez une idée de combien de chercheurs travaillent sur la question du plastique, pas seulement en droit, en France en tout cas ?
Aucune idée, non, pas du tout.
Bon, on suppose que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, puisque c'est vrai que ça devient vraiment une question.
Et
il nous reste, juste une minute. Alors, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment réduire les pollutions plastiques marines ?
il faudrait en arrêter avec l'usage unique. En fait, ce mode de consommation qui consiste à prendre et à jeter dans l'immédiat génère nécessairement des déchets. Et bien qu'ils disparaissent de notre vue en France, il faut bien se dire que tous les emballages qu'on pense recyclés ne sont pas recyclés, et certains sont même exportés ailleurs. Et donc, je pense à des pays qui n'ont pas les moyens non plus de s'en occuper, et donc c'est fini, in fine, dans l'environnement. Et donc, en finir avec l'usage unique nécessite de revoir en profondeur nos modes de consommation. Mais pour moi, c'est la seule façon en fait de venir à bout de ce problème, parce que les alternatives qu'on trouve, y compris avec du plastique biosourcé, ne résoudront pas tout en fait.
Sauf qu'il y a, bon, il y a forcément des domaines où on ne pourra pas se passer de plastique. Enfin, je pense au domaine de la santé, sans doute, ou des choses comme ça. Mais là, c'est l'usage unique, mais bon, ça pourrait être au moins circonscrit, je suppose, quoi.
Alors, un slogan pendant longtemps, c'est, enfin, un peu une idée, c'est que le plastique, c'est fantastique. Parce qu'en effet, il a plein de propriétés qui sont géniales et qui, notamment en termes de santé et d'hygiène, sont très, très importantes. Donc, en effet, il ne s'agit pas d'éradiquer le plastique
De nos vies, on peut
de
pas.
De nos vies, mais le suremballage et l'usage unique dans la consommation de tous les jours, je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête.
Ouais. Ce serait déjà un gros progrès.
Ce serait déjà beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Odeline Billon. On réécoutera bien sûr cette émission sur le site internet de la radio.